Alors, il s'agit d'une raquette de tennis parce que passionné de tennis, je suis depuis maintenant une trentaine d'années. J'ai beaucoup joué, je continue de jouer un tout petit peu moins. L'âge n'aidant pas forcément. J'ai fait pas mal de compétitions et puis surtout, j'ai suivi avec un grand intérêt ce qui s'est récemment passé lors de l'Open d'Australie, à savoir la victoire extraordinaire. Je crois qu'il ne faut pas bouder notre plaisir de Stanislas Wawrinka, qui, je le rappelle quand même, a battu dans le même tournoi les numéros 1 et 2 mondiaux, ce qui constitue un exploit absolument unique. Je rappelle qu'il n'y a jamais un seul roman qui a gagné un tournoi du Grand Chelem jusqu'à présent. L'exploit précédent avait été réalisé par Marc Rosset, qui lui était arrivé en demi-finale de Roland-Garros. Et puis ça tombe bien puisqu'on parle de tennis, puisque le premier tour de la Coupe Davis 2014 commence demain pour l'équipe de Suisse. J'ai appris aussi avec plaisir que Roger Federer était revenu sur sa décision et jouera ce premier tour contre la Serbie, avec une excellente chance de la Suisse de se qualifier pour les quarts de finale, sauf erreur, puisque si j'ai bien suivi l'actualité, Novak Djokovic ne sera pas de la partie, donc c'est vraiment une chance.
Ou peut-être,
peut-être.
Rien n'est encore décidé.
Je pense que quand Djokovic a vu que Federer était revenu sur sa décision, peut-être il va aussi jouer pour que son équipe ait le maximum de chances de gagner contre la Suisse, parce que là, avec les numéros 3 et 8 mondiaux, ça commence à devenir compliqué pour l'équipe de Serbie, parce que derrière Djokovic, il n'y a pas grand monde.
Une question: quand on fait du tennis, justement comme vous, on apprécie d'autant plus ce qu'a fait Stanislas Wawrinka, ou ce que pourrait faire Wawrinka et Federer en Coupe Davis?
Alors effectivement, parce que ça fait de nombreuses années, vous le savez, on en a entendu parler récemment, je crois que Stanislas Wawrinka a joué les 20 ou 25 dernières rencontres de l'équipe suisse de Coupe Davis, alors que Federer a quasi systématiquement boudé la compétition ces dernières années. Ce que je comprends aisément d'un certain point de vue. Je rappelle quand même que c'est le meilleur joueur de tous les temps et qu'il y a certaines priorités à fixer. Il les a fixées, c'est compréhensible. Mais effectivement, si cette année, alors que Federer quand même arrive gentiment en bout de carrière, les deux compères pouvaient se retrouver, j'imagine que Federer a décidé au dernier moment de revenir sur sa décision parce qu'il sent très très bien maintenant que le vent tourne en faveur de Wawrinka, qu'il l'a dépassé au classement mondial et que ce serait de moins en moins bien perçu par la population suisse que Federer ne joue pas cette Coupe Davis.
Vous êtes un vrai passionné là, à vous entendre. Et vous jouez depuis très très longtemps?
Je joue effectivement depuis une trentaine d'années, j'ai fait un peu de compétition, j'ai atteint modestement le classement R4. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que l'équipe jeune senior du TC de Limoges, avec laquelle je joue depuis quelques années, il y a deux ans comme maintenant, nous sommes remontés en Ligue Nationale C. Un mini-exploit que nous étions déjà parvenus à réaliser il y a quelques années. Donc effectivement, vous savez, même avec l'âge, le plaisir reste intact.
Ça a quelle place dans votre vie, le tennis ?
Je dirais une place quand même assez prioritaire, parce que au-delà du fait que je joue quand même encore un petit peu, je suis avec un grand intérêt l'actualité du tennis. Je parle très souvent tennis avec beaucoup d'amis. Je suis les résultats, les tournois du Grand Chelem. J'ai l'occasion d'aller depuis une dizaine d'années maintenant régulièrement à Roland-Garros et à Wimbledon. Donc c'est vrai que le tennis garde une place très importante. Enfin, c'est la passion quand elle nous tient, elle ne nous lâche pas.
Vous aimez aussi les sports de neige, Didier Valzer, puisque vous êtes le porte-parole du Snow Up Interjurassien.
C'est ce dimanche, entre Seigne-Légie et les Russies.
La matinale RFJ, l'invité pas pressé.
Alors Didier Valzer, comment s'annonce cette édition pour dimanche?
Alors, j'aurais tendance à dire que tout dépendra des conditions météo. On vient de consulter, grâce à votre ordinateur, les prévisions de ces 72 prochaines heures. Ça ne s'annonce pas forcément extraordinaire sur le... je dirais, de la neige. Ce n'est pas forcément un problème dans la mesure où je rappelle, et c'est l'occasion de le faire, que le Snow Up Interjurassien se déroule par n'importe quelle condition météo. Je rappelle aussi que c'est entièrement gratuit. Donc évidemment, eu égard à son nom, il vaudrait mieux qu'il y ait de la neige qui tombe un petit peu d'ici à dimanche. Le cas échéant, les gens pourront venir avec leur raquette à neige, avec leur ski de fond. Mais sinon, ça s'était passé de cette manière-là il y a 3 ans, sauf erreur. On avait quasi un temps printanier. À ce moment-là, les gens étaient venus à pied, avec des poussettes, à vélo. Donc il y a de multiples possibilités de quand même prendre du plaisir lors de ce Snow Up Interjurassien. D'autant que, je le rappelle, l'objectif principal est de permettre aux familles notamment, mais bien sûr à tout un chacun, chacun est le bienvenu dans le cadre de cette manifestation, de prendre un grand bol d'air frais. Et quelles que soient les conditions météo, aux Franches-Montagnes, on prend toujours un grand bol d'air frais.
Pour cette 16e édition du Snow Up, est-ce qu'il y a des nouveautés?
Alors, la nouveauté principale, c'est l'invité d'honneur, puisque la Chaux-de-Fonds sera sur place dimanche à partir de la fin de la matinée, puisque lors de la réception officielle, nous aurons l'occasion de parler de cette ville de la Chaux-de-Fonds. Elle aura l'occasion de se présenter. Il y aura quelques manifestations en relation avec la ville de la Chaux-de-Fonds. Et c'est M. Monard, le président du conseil communal, qui représentera sa ville dans le cadre du Snow Up interjurassien.
Vous disiez tout à l'heure, l'objectif principal, c'est de prendre un bon bol d'air et du plaisir. Le but aussi quand même du Snow Up, c'est un peu de promouvoir la mobilité douce aussi. C'est déjà la 6e édition. Est-ce qu'il y a encore besoin d'organiser une telle manifestation? Est-ce que la mobilité douce, c'est pas déjà entré dans les mœurs?
Alors, je rappelle peut-être que tout au départ, c'est la section jurassienne du Touring Club Suisse qui est à l'origine de la mise sur pied du premier Snow Up interjurassien. Puis quand on entend parler de Touring Club Suisse, évidemment, on pense immédiatement à l'automobile. Donc au départ, lorsque nous nous sommes engagés dans cette manifestation-là, puisque moi je travaille aussi en partie pour la section jurassienne du Touring Club Suisse, c'était pour bien montrer aussi que désormais, le Touring Club Suisse n'était plus seulement le club des automobilistes, mais c'était le club de la mobilité plurielle. C'est-à-dire que le TCS va par exemple promouvoir divers moyens de transport autres que la voiture à partir du moment où il est plus logique par exemple de prendre un train pour relier un point A à un point B.
Mais ce message-là, il doit encore passer aujourd'hui ?
C'est-à-dire qu'il n'est jamais inutile de rappeler ce genre de message-là pour les personnes qui auraient tendance à l'oublier. Mais je rappelle aussi que si la section jurassienne du TCS est à l'origine du premier Snow Up interjurassien, depuis c'est l'association Snoopy, l'association du Snow Up interjurassien, auquel un certain nombre d'organismes se sont greffés, qui organise cette manifestation. Il y a des tas d'organismes, je dirais, institutionnels, et il ne faut pas systématiquement mettre en évidence la section jurassienne du TCS, même si encore une fois elle en est à l'origine.
Vous le disiez tout à l'heure, l'invité d'honneur, c'est la Chaux-de-Fonds. Et puis, on entendait aussi Jean-Claude Salomon, le président du comité d'organisation, qui disait « Le Snow Up veut attirer des gens de l'extérieur avec cette année, donc la Chaux-de-Fonds. » Et puis, éventuellement, Bâle Soleure pour une future édition. Est-ce que vous voulez aussi attirer les Alémaniques? Est-ce qu'ils ne sont pas déjà présents actuellement?
Vous avez raison, dans une certaine mesure, on voit effectivement lors des parkages, en fait, à l'arrivée de la manifestation, puisque je rappelle qu'il y a deux arrivées ou deux points de départ, c'est-à-dire les Russies, Tramelan d'un côté, et puis Seignelégier de l'autre côté. Donc on a effectivement remarqué qu'il y avait beaucoup de voitures qui avaient des plaques immatriculées en Suisse alémanique. Pour nous, ça ne saurait nous suffire. Évidemment, plus on peut attirer de personnes, mieux c'est. Donc, si on est effectivement largement connu, je dirais, dans l'environnement francophone immédiat, y compris la France voisine, il est évident que l'un des objectifs à terme, c'est d'attirer encore beaucoup plus de participants. Et la marge de progression la plus élevée en ce moment est bien sûr du côté de la Suisse alémanique. On pense, comme le disait tout à l'heure Jean-Claude à juste titre, du côté de Bâle, les deux Bâles, mais bien sûr aussi du côté de Soleure. Donc, l'environnement suisse alémanique, je dirais, immédiat.
La matinale RFJ, l'invité pas pressé.
Didier Valzer est notre invité jusqu'à 8h, porte-parole du Snow Up interjurassien. Journaliste, on a pu l'entendre très, très acerbe dans ses critiques. Et puis amateur de cinéma aussi. Vous aviez d'ailleurs eu l'occasion de faire des chroniques sur notre antenne et de parler par exemple du Festival de Cannes. En ce moment, c'est pas Cannes, mais les journées de Soleure, elles se terminent ce soir. Vous suivez un peu ces journées?
Alors, je dois dire que cette année, j'ai suivi de manière un peu plus discrète peut-être que les années précédentes. Ce que je trouve toujours intéressant avec ce genre de manifestation-là, c'est que ça permet surtout de découvrir ou de faire découvrir des auteurs qui ne sont pas forcément connus du grand public. Et ça, je trouve, après, c'est intéressant parce que ça permet effectivement à quelques films de sortir dans les salles, de bénéficier d'un certain impact médiatique dans la mesure justement où les films en question ont été présentés dans le cadre de ces journées cinématographiques. Et ça permet justement au grand public d'assister souvent à des œuvres de qualité qui sinon n'auraient pas eu la chance d'être médiatiquement reconnues.
Il y a un film jurassien, Win-Win, qui concourt pour le prix du public ce soir aux Journées de Soleure. Vous l'avez vu, Win-Win, vous en pensez quoi ?
Alors, je pense que c'est une excellente chose pour deux raisons. Déjà, je pense que c'est extrêmement intéressant d'avoir un film finalement qui fait la promotion du canton du Jura, puisque ça s'est peu passé, pour ne pas dire jamais passé dans le temps. Donc ça, c'est le premier aspect extrêmement intéressant. Je trouve que c'est assez intéressant de se rendre compte que finalement, c'est un cinéaste belge, sauf erreur, qui s'est intéressé à réaliser ce film. parce que il y avait vraiment de la matière, il y avait vraiment du terreau, donc l'histoire en soi est assez extraordinaire. Je trouve qu'effectivement, ça valait vraiment la peine de faire un film qui tournait autour de cette thématique-là. Et puis, c'est un film qui a quand même bénéficié d'un certain impact médiatique, hein, j'en parlais tout à l'heure. Il a été projeté aussi dans d'autres pays, et je trouve que c'est excellent, évidemment, pour l'image du canton du Jura, et puis, accessoirement aussi pour le cinéma suisse. Enfin, c'est une production qu'on peut qualifier d'européenne, hein, puisqu'il y a aussi un jurassien qui est à l'origine de la production, Pierre-Alain Meyer, sauf erreur. Il y a des comédiens jurassiens, notamment Anne Comte, qui réalise une belle carrière à la fois au cinéma, à la télévision et sur scène du côté de la France voisine. Elle est établie à Lyon. Ça permet aussi de mettre en évidence des talents régionaux, que ce soit au niveau de la production, je le disais, que ce soit au niveau de la comédie, puis que ce soit aussi au niveau de finalement ce qui se fait dans cette région. Pourvu qu'on en parle, je pense que c'est effectivement l'aspect le plus important.
Mais sur le film lui-même, le scénario, que dit le critique de cinéma ?
Bah écoutez, c'est un film, c'est une comédie effectivement sympathique. Ça dépend toujours de la manière dont on l'aperçoit. Comme jurassien, forcément, on apprécie parce qu'on retrouve des paysages de notre coin de pays. Enfin, on retrouve des décors, on retrouve des acteurs. Enfin, on retrouve notamment le maire de Delémont, Pierre Collère. Enfin, on retrouve plein de personnalités. Alors, peut-être que cet aspect-là, finalement, occulte la véritable qualité du long métrage, dans la mesure où on est vraiment absorbé par tous ces aspects qu'on connaît, qu'on voit tous les jours. Pour avoir effectivement un aspect objectif, il faudrait presque que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui puisse donner son avis sur l'aspect, je dirais, purement cinématographique du produit en question.
Si on parle de la production de films dans le Jura, il y en a peu, mais vous estimez que l'offre est intéressante ?
En termes de production typiquement jurassienne ? Je pense que non, parce qu'à part effectivement un film qui a bénéficié d'un grand impact médiatique comme Win-Win, au niveau du grand public, on en connaît peu. On sait qu'il y a des talents ici, encore une fois, au niveau de la comédie, au niveau de la production. J'ai cité quelques noms tout à l'heure. C'est peut-être dommage qu'on ne puisse pas bénéficier davantage, effectivement, de retombées médiatiques. Peut-être qu'on ne s'intéresse pas assez, ou alors que les personnes qui sont directement impliquées ne fassent pas forcément le nécessaire pour qu'on parle davantage d'eux. En même temps, c'est extrêmement difficile quand on est impliqué dans un projet. Enfin, on peut pas être bon quelque part à tous les niveaux. On est peut-être excellent dans l'aspect purement cinématographique. Après, peut-être au niveau de la communication, il faudrait peut-être s'adjoindre certaines personnes, etc. Mais je note quand même, on parle du Jura, qu'il y a quelques digne représentant jurassien aussi, dont Thierry Jobin, qui est le directeur du Festival de films de Fribourg. Et Thierry Jobin, que j'ai connu lorsque j'étais au collège de Delémont, est quelqu'un de passionné, avec un P majuscule depuis sa plus tendre enfance. Et c'est quelqu'un qui porte loin, je dirais, la qualité du cinéma. C'est extrêmement intéressant aussi, eh bien, quelque part, qu'il soit à la tête d'un film comme le Festival de films de Fribourg, qui permet au grand public de découvrir des pépites, et je pèse mes mots, en provenance du monde entier, qui sont peut-être des films un petit peu moins médiatiques que les grosses productions américaines, mais ça permet au public de se rendre compte que le cinéma est extrêmement divers, et qu'il y a finalement, outre le fameux cinéma américain, des tas d'autres productions en provenance d'une quantité astronomique de pays. Je dirais qu'il y a de plus en plus de pays qui produisent des films, et l'immense différence qu'il y a aujourd'hui par rapport à ce qui pouvait se produire encore il y a quelques années, eh bien, c'est que ces films-là arrivent devant les yeux du grand public d'un nombre maximum de personnes, et ça, c'est vraiment le plus important, quoi.
Si on a de la chance à Delémont pour ça, on a aussi Delémont Hollywood, et ça permet aussi une ouverture. Et puis, il y a ce fameux projet.
Oui, ce projet de multiplex de plus de 700 places à Delémont, on l'a appris cette semaine. Vous croyez qu'il y a assez de demandes et d'intérêts pour remplir ce multiplex ?
Alors moi, j'aurais tendance à dire oui, pour plusieurs raisons. Je pense qu'effectivement, le bassin de population permettra, sauf erreur, de remplir les 760 sièges à disposition. Et je pense également que plus il y a d'offres et plus ça crée quelque part de la demande. Il ne faut pas oublier que le multiplex qui arrivera sera situé au centre de la Croisée des Loisirs à Delémont, qui est déjà un pôle de loisirs en soi. Donc on peut très bien imaginer que si vous allez en couple ou en famille à la Croisée des Loisirs, monsieur peut peut-être jouer une heure de tennis ou une heure de squash pendant que madame va voir un film avec son enfant. Puis après, tout le monde se retrouve pour croquer une morse, manger une pizza dans ce domaine-là. En plus, je pense que c'est extrêmement bien centré. Et je pense qu'il ne faut pas forcément poser ces multiplexes multiplex, finalement, qui sont les produits que désire aujourd'hui la clientèle. Il ne faut pas se voiler la face. Je pense que ce n'est pas du tout antinomique par rapport aux petites salles, bien sûr, qui auront certainement des difficultés. Mais je pense que ça doit être complémentaire. Je pense qu'avec une production un peu différente par rapport aux grosses productions, eh bien, il y a moyen pour tout le monde d'exister. Je rappelle quand même que le cinéma La Grange à Delimont propose chaque été eh bien, un open air qui marche très bien, d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai déjà pu voir. Donc, je pense que le succès pour les petites salles et les grandes salles réside dans la complémentarité. Il ne faut surtout pas qu'elles marchent sur leur plate-bande respective.
Didier Valzer, pour terminer brièvement, votre film préféré ?
C'est une excellente question. Vous me prenez un tout petit peu au dépourvu, mais le premier film qui me vient en tête, je suis assez fan de Clint Eastwood, c'est Million Dollar Baby, qui pour moi est la quintessence de tous les meilleurs films d'Eastwood, un chef-d'œuvre absolu.